Alors,
on va
prendre
des
marques.
Merci.
Pour 30 à 40
minutes.
Oui, oui, oui.
Merci, Gaëtan. Bonjour, Paris.
Bonjour.
merci aussi, Éric, Georges, de m'avoir invité à participer à ce séminaire extrêmement passionnant et prometteur, je dirais. Malheureusement, je n'ai pu assister qu'à une des séminaires avant celui d'aujourd'hui, mais je suis ça et c'est une très belle initiative et j'espère que ça va laisser des traces et faire des petits. Félicitations et merci. Alors, le sujet auquel je veux, je réfléchis depuis un certain temps et de quoi je veux parler aujourd'hui, pour le dire en anglais, parce que je me rends compte, et Gaëtan a eu la gentillesse de me le rappeler tout début quand je suis arrivé ce matin, il y a des problèmes de traduction qui ne sont pas simples, mais qui sont un peu, qui sont fondamentaux, qui font partie du problème même dont je vais parler. En fait, mon sujet, c'est media policy, ou plutôt global media policy. Moi, je n'ai jamais trouvé vraiment de traduction adéquate à mes fins du terme media policy. Bon, Gaëtan m'a suggéré les politiques sur les médias. Non, parce que ça, c'est media policies, qui n'est pas tout à fait la même chose que le champ, si vous voulez. Et quand on transpose à l'échelle globale ou mondiale, là encore, il y a un autre niveau de problème qui se présente, qui est un peu plus en anglais. Il y a cette belle ambiguïté ou côté énigmatique. Quand on dit global media policy, ça peut vouloir dire politique médiatique sur le plan mondial ou sur le plan global. Et en effet, il y a une tension entre ces aspects-là. Et je trouve que de plus en plus, si on veut penser au media policy, il faut le faire dans une perspective de globalité. C'est-à-dire, plus qu'on avance, et ce n'est pas quelque chose vraiment de nouveau, mais c'est frappant à quel point c'est devenu incontournable de se rendre compte du moindre élément en ce qui concerne le domaine des médias et des communications, sans en tenir compte de bien d'autres choses, même dans des lieux, dans des endroits tout à fait insoupçonnés, que ce soit dans la pièce à côté ou que ce soit au niveau international, multilatéral, mondial, caractériser ça comme vous voulez. Alors, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est un peu, c'est de problématiser cette notion-là, et je vais vous demander une certaine indulgence et de patience, même parce que il s'agit vraiment d'une réflexion, d'un work in progress en quelque sorte, mais d'une réflexion que je mène, de mon côté et avec certains collègues depuis quand même un certain nombre d'années, mais qui est encore loin d'être achevé. Alors voilà, vous avez à l'écran le titre de ma communication, et dans la version que j'ai fournie à Eric, il y avait entre parenthèses, effectivement, après les mots politique médiatique, il y avait entre guillemets la version anglaise media policy. Donc c'est penser la media policy dans un contexte de mondialisation. Bon, voilà, vous avez les coordonnées, on peut laisser passer. Alors, je vais commencer en vous proposant une définition qui est encore aussi, en quelque sorte, un work in progress, qui est incomplète, qui est encore, jusqu'à un certain point, à mes yeux, insatisfaisante, Je vais vous demander, je vais passer à travers ça parce que c'est quand même à plusieurs lignes. Je vais laisser ça à l'écran pendant quelques minutes, pendant que je discute, et je pense qu'il y aurait là des éléments sur lesquels on pourra revenir dans la discussion après. Alors, en partant, donc, c'est la question, qu'est-ce que c'est le media policy? Qu'est-ce qu'on entend par ça? Et là, j'introduis tout de suite un bémol dans les discussions parmi les gens qui travaillent dans ce champ et qui réfléchissent. Il y a un débat qui a lieu depuis quelques années, à savoir si on ne devrait pas plutôt parler de media governance que de media policy, de gouvernance des médias. Et là, toute la question de qu'est-ce que c'est la notion de gouvernance par rapport à notre champ est un aspect important à tenir en considération. Et en quelque sorte, je dirais que la définition que je vous propose ici, ça peut aussi être considéré comme une définition concernant ça à quoi se réfère le terme la gouvernance des médias. Parce que le terme gouvernance est plus large que celle de policy ou de politique, dans le sens que ça, traditionnellement, quand on parlait de politique, on avait tendance à penser politique publique, politique gouvernementale, loi, législation, réglementation, et tous ces éléments-là. Et de plus en plus, quand on parle de gouvernance des médias, on tient compte d'autres facteurs, les rapports entre les acteurs, tous les processus informels qui ne sont pas codifiés et tout. Mais moi, je choisis de garder le terme « media policy » et d'y introduire les éléments de gouvernance pour ne pas trop faire une fétiche, si vous voulez, de l'aspect formel du côté des règles concernant les médias. Parce que de plus en plus, il y a une interdépendance entre les éléments formels et tous les processus comme je propose dans cette définition, les processus, je ne voulais pas le lire, mais peut-être au bénéfice de Philippe, tu ne le vois pas, je crois.
Non, je le vois pas.
Bon. Alors, le media policy se réfère à tous les processus formels et informels, et ça, c'est une partie extrêmement fondamentale, formel et informel, où les acteurs, et là il y a un premier qualificatif, les acteurs avec différents degrés de pouvoir et d'autonomie. Donc, la notion d'acteur, pour moi, ça englobe les gouvernements jusqu'à le hacker ou le petit collectif les gens de Wikileaks, si vous voulez. Les acteurs avec différents degrés de pouvoir et d'autonomie. Ensuite, il y a un deuxième bout où on pourrait dire tout simplement interviennent, parce que c'est ça, où les acteurs, tous les processus où les acteurs interviennent, mais j'élargis cette notion un peu pour dire qu'est-ce que j'entends par intervenir, où les acteurs définissent et expriment leurs intérêts, donc déjà, juste formuler la position qu'on va prendre ou essayer de saisir et de comprendre ses intérêts et de se faire une stratégie d'intervention, ça fait partie de cet univers. Donc, où les acteurs définissent et expriment leurs intérêts, produisent des connaissances et des pratiques pertinentes. Et ça peut constituer dans la production, un groupe qui produit un mémoire qu'il faut soumettre quelque part, ou une pratique culturelle ou politique pour essayer d'influencer le domaine qui ne consiste pas à une intervention formelle. Donc, produisent des connaissances et des pratiques pertinentes, et s'engage dans la négociation politique, et ça peut être à divers niveaux. Et l'exemple qui me vient à l'esprit et dont je vais parler un tout petit peu, mais c'est par exemple tout le processus autour du sommet mondial sur la société d'information, où pendant plusieurs années, il y avait un éventail d'acteurs gouvernementaux, non gouvernementaux, venant du monde des affaires et ONG, associations de la société civile, qui se sont engagés dans ce processus-là. Dans le but d'influencer le résultat de la prise de décision dans le domaine des médias et de la communication. Dans le but, si vous voulez, d'influencer l'orientation et l'évolution des systèmes de communication. Alors, tout cela qui est plutôt, pour un politicologue, ça serait peut-être plus une définition d'un processus de gouvernance que de policy, mais je le mets sur la table comme ça. Et en effet, un élément aussi que je veux souligner ici, c'est le problème de traduction entre les disciplines par rapport à ces choses-là. Il y a aussi cette chose. Bon, nous considérons, certains considèrent la communication comme une discipline, d'autres comme un champ interdisciplinaire, mais c'est surtout, c'est certain que les politicologues, les sociologues et les communicologues n'emploient pas toujours la même terminologie pour parler de la même chose. Alors, je souligne en bas que cette définition-là est une version adaptée de quelque chose réalisé en collaboration notamment avec une collègue italienne, Claudia Padovani, avec qui je travaille depuis plusieurs années sur ces questions-là. Nous avons publié l'année dernière un texte qui est paru dans un journal académique et qui est aussi accessible en ligne, et je vais vous donner la référence en fin de la communication. Bon, et j'ai mis un peu en blague, mais quand même, c'est aussi pertinent. Traduction assistée par Google, parce que j'ai fait le petit exercice juste pour voir qu'est-ce que ça allait donner. J'ai pris la version anglaise, je l'ai entrée dans un des outils de traduction de Google, et c'était pas mal. il y avait des problèmes de syntaxe et grammatique, mais les mots, pour moi, c'était pas mal. Alors, ça aussi, c'est de plus en plus qu'on avance dans cet environnement des médias et de communication, on va devenir un peu captif des outils comme celui-là, parce que ça va être important. Là, bon, j'ai quand même la possibilité de faire une traduction assistée par Google et de corriger, parce que mon français, heureusement, me permet de faire ça. Mais si je voulais trouver une version hongroise de cette phrase, j'aurais un autre niveau de problème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si, bon, une entreprise comme Google deviendra le gatekeeper un peu des relations interculturelles à ce plan-là, qui risque de se produire d'une certaine manière. En tout cas, c'est une parenthèse. Alors, pour avancer, donc la prochaine série il y a ici une série de fiches que je vais vous présenter qui sont plutôt des éléments empiriques qui vont nous permettre d'avancer dans la réflexion sur la question que je viens d'exposer. Et ici, vous voyez comme titre, j'ai mis l'environnement de la politique médiatique globale, entre guillemets. Et là, en anglais, c'est « the global media policy environment ». Et encore une fois, il y a une ambiguïté délicieuse dans cette version anglaise, parce qu'on peut dire « global media policy environment » ou « global media policy environment ». Alors, on peut l'employé pour se référer aux deux aspects qui, d'après moi, c'est extrêmement important de garder à l'esprit la tension avec ces éléments-là. Parce que si on pense à la globalité des éléments de politique ou de gouvernance des médias, il y a à la fois l'aspect que cette interdépendance entre des champs voisins, si on pense en termes des vieux médias, si on pense autrefois, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, on pouvait penser aux questions de télécommunication et des questions de radiodiffusion séparément. Il y avait des gens qui faisaient des carrières complètes dans un champ sans jamais s'intéresser à l'autre. Bon, évidemment, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Alors, il y a une globalité dans ce sens-là, et aussi dans le sens où si on essaie d'intervenir dans le champ politique des médias au Canada ou en France ou ailleurs, il y a au moins une conscience minime qu'il y a quelque chose qui relie non seulement les différents contextes locaux, mais qui les relie à un autre niveau, c'est-à-dire en passant par des éléments d'influence politique qui échappent au local. On ne peut avoir aucune prise sur certains éléments sans aller à un autre niveau. Alors, je vais maintenant passer à une autre partie de l'exposé où je vais vous présenter un peu de manière télégraphique une série d'éléments empiriques qui font partie un peu de cet univers que moi, je prétends, doit être considéré comme un environnement global. Alors, vous voyez sur la gauche ici une espèce de une typologie, si vous voulez, à la fois qu'on peut considérer comme étant une typologie d'acteurs ou bien une typologie de lieu ou de niveau d'intervention sur les. Sur les politiques. Alors, rapidement, pour le bénéfice de Philippe, il y a les organisations multilatérales, ce que j'appelle les clubs internationaux, les entités régionales, les États nationaux, le secteur privé transnational, la société civile mondiale, les structures dites « hybrides », entre guillemets, et les enjeux sans abri. C'est une formulation que j'ai inventée dont je vais parler quand j'y arrive. Alors, c'est présenté, comme je travaille ici en deux dimensions, c'est présenté, ça pourrait paraître comme étant une hiérarchie d'acteurs et de lieux, et d'une certaine manière, c'est le cas, mais je vais vous demander de ne pas y penser comme étant une représentation hiérarchique. Ce n'est pas mon objet de dire que les organisations multilatérales sont plus importantes que les acteurs de la société civile, mais c'est présenté comme ça. Donc, si on regarde du côté des organisations multilatérales, ici, ce sont des exemples, mais je le présente de cette manière-là juste pour stimuler le regard global sur ça, pour rappeler, et peut-être tout le monde, bon, peut-être pour certains, vous êtes assez, vous connaissez déjà ces enjeux et ces institutions-là, mais c'est pas évident, c'est surtout pas évident pour quelqu'un qui n'a pas déjà étudié ces choses-là. Mais ce qui est important de reconnaître, c'est que on peut nommer les enjeux ou les secteurs, les éléments du domaine des médias de communication. Bon, ici, Il y a les télécommunications, les médias, la culture, les industries culturelles. Il y a aussi des enjeux comme le commerce international, le développement, la propriété intellectuelle, ainsi de suite. Et pour tous ces enjeux-là, on peut coller le nom d'une organisation multilatérale, l'Union internationale des télécoms, l'UNESCO, l'OMC, la Banque mondiale, ainsi de suite. C'est l'aspect le plus mondial, si vous voulez, de l'environnement. Mais un aspect extrêmement important qui frappe aux yeux, c'est qu'il s'agit essentiellement d'organismes intergouvernementaux, mais à des variétés. Il y a une géométrie variable entre ces organismes-là, même quand les organismes dépendent du système de l'ONU, par exemple. Par exemple, ça, c'est peut-être pas connu nécessairement à tout le monde, l'UIT, l'Union internationale sur les télécommunications, a plusieurs centaines de membres provenant du secteur privé. Il y a une catégorie de membership pour le secteur privé.
Philippe, ton micro est ouvert et on entend tout ça,
le
bruit parasite.
Je vais le faire, merci.
Bon, l'UNESCO, par exemple, a une autre culture différente que l'UIT. L'UNESCO, il est d'une certaine manière plus proche, plus ouvert à une certaine participation du côté de la société civile. Il s'agit aussi des différents types de lieux de discussion. Tandis qu'à l'UIT, on parle des choses vraiment hard, concrètes, comme l'attribution des fréquences de radiodiffusion ou de la tarification des frais interurbains ou autres. À l'UNESCO, et là, je suis certain que tout le monde ici en est conscient, on a vécu des débats tels que celui sur le nouvel ordre mondial sur l'information et la communication, le NOMIC, etc. Ce que j'appelle ici les clubs internationaux, c'est aussi des organisations multilatérales dans le sens du terme qu'emploient les politicologues, dans le sens qu'il s'agit d'organismes qui regroupent des gouvernements, plus que deux. Déjà, on pourrait considérer que l'accord de libre-échange entre le Canada et l'US, c'est un accord bilatéral, mais l'accord de l'ALENA, c'est déjà un accord multilatéral. Bon, mais j'appelle ça des clubs, pas tout à fait dans le sens de Gaétan et Jean-Guy quand ils parlent des clubs, comme on a entendu dans l'autre exposé, mais des clubs dans le sens, encore dans le sens de l'exclusivité, mais ici, il s'agit d'une exclusivité intergouvernementales, les gouvernements qui se cooptent entre eux parce que ils ont un intérêt à travailler ensemble et c'est pas tout le monde, c'est pas tous les gouvernements qui peuvent y avoir accès, comme en principe c'est le cas dans le cas des organismes multilatéraux qu'on a regardé tantôt. Alors les exemples donnés ici sont le G8 et l'OCDE, qui sont choisis parce que ce sont des clubs qui se sont particulièrement adressés à des enjeux de politique de communication à certains moments de leur histoire avec un certain impact, avec des résultats différents. L'accord multilatéral sur les investissements, je pense que c'est un cas qui mérite encore d'être mentionné, même si ça date de plus qu'une décennie, parce que effectivement, c'est un exemple où des acteurs de pouvoir et d'autonomie variables, où il y a un peu un résultat inattendu, je pense, hein? Parce qu'effectivement, En théorie, on aurait dû croire qu'un organisme comme l'OCDE aurait dû pouvoir imposer un accord comme celui-là, compte tenu de sa force de frappe, si vous voulez, mais ce n'a pas eu lieu, entre autres choses, grâce à une mobilisation des associations de la société civile, etc., avec toute l'histoire que vous connaissez. Au niveau de ce que j'appelle les entités régionales, on peut penser à des accords, l'exemple des accords de libre-échange, ou à un cas quand même exceptionnel, celui de l'Union européenne, où des États volontairement cèdent une partie de leur souveraineté sur certaines questions à un organisme supérieur, en quelque sorte, qui prend charge par la suite de certaines parties de leur politique dans différents domaines. Et dans le cas qui nous concerne, je donne ici quelques... On a perdu Philippe. Oui, il nous a perdu.
Ça doit être à cause des 2 heures pile.
Est-ce
ça
que...
Ça saute toujours après 2 heures, c'est toujours comme ça depuis des années. Et personne ne comprend pourquoi.
Bon, mais si. Si on peut.
Et personne ne sait. Ah, ça y est.
Ah, voilà.
Excusez-moi, c'est revenu. C'est la coupure qui se produit.
Okay. D'accord.
Et personne ne sait pourquoi.
OK. Alors, continuons. Donc, en continuant dans la typologie, bon, il y a les États nationaux qui, bon, il y a un certain temps, il y a peut-être une dizaine d'années, c'était à la mode était de dire, bon, les États vont disparaître, les États ne sont plus des acteurs importants dans ce domaine-là, mais je pense que, l'histoire et l'actualité nous démontrent que c'est encore le cas, et ici... je donne quelques exemples canadiens. Encore une fois, on peut faire ça pour n'importe quel pays dans le monde, sans exception. Hein? Il y a toujours des corps nationaux de différentes sortes qui sont les lieux de prise de décision concernant certains éléments du domaine des médias de communication. Et là, encore ici, la présentation est schématique et télégraphique. Certains dans la salle vont tout de suite sauter sur le fait que je dis que télécommunication relève d'Industrie Canada, tandis que radiodiffusion relève du CRTC. On sait que télécommunication aussi relève du CRTC. Mais, en tout cas, je pense qu'on pourrait en débattre, mais je pense que Industrie Canada est plus important par rapport aux télécommunications que le CRTC. Peu importe, ce qui est important, c'est de noter que dans le domaine, dans cet environnement de secteurs autrefois distincts, comme la télécommunication, la radiodiffusion, les politiques culturelles, les institutions politiques, etc., il y a une série d'acteurs, et là, ce n'est que les acteurs les plus officiels et les plus gouvernementaux ou paragouvernementaux qui sont indiqués ici sans tenir compte de tous les autres. Alors déjà, on commence à voir l'immensité de cette ambition de vouloir prendre une approche globale à ce secteur-là. Et ce n'est pas fini. Donc, au niveau du secteur privé, et là, il y a, bien sûr, on pourrait faire le même exercice que j'ai fait il y a un instant avec les États, avec le secteur privé sur le plan national, mais ici, seulement sur le plan transnational, il y a une série d'associations qui regroupent des organismes qui regroupent des associations représentant le secteur privé sur des questions concernant les satellites, les normes techniques, les télécoms, etc. En plus de l'intervention directe d'immenses firmes transnationales telles que Microsoft, Google, etc. Et alors, quel signe attaché à ça en termes si on voulait dire, bon, est-ce que ce secteur-là, est-ce que c'est le secteur qui est l'acteur dominant dans l'environnement global des communications? Est-ce que c'est plus important que les États, moins important, l'importance égale? Bon, tout ça, ce sont des questions à qui que je mets en suspens pour au fin de la présentation du schéma. L'autre grande catégorie d'acteurs non gouvernementales s'appelle la société civile, et encore une fois, il s'agit d'un secteur qui existe sur le plan local, de manière organisée, moins organisée ou complètement non organisée. Ici, sur le schéma, je présente quelques exemples de grands organismes transnationaux de la société civile qui sont des nouveaux acteurs dans le champ des médias et des communications. Si on pense, par exemple, au débat qui a eu lieu à l'UNESCO dans les années 70 autour de la NOMIC, on pourrait à peine nommer une grande ONG internationale qui y était impliquée. Et si on en nommait, ce serait du genre de World Press Freedom Committee ou de International Federation of Journalists. Tandis qu'aujourd'hui, quand il y a un sommet mondial sur la société d'information, on voit des acteurs tels que la marque qui regroupe les radios communautaires, ou l'APC, l'Association for Progressive Communications, ou la campagne CRIS, Communication Rights in the Information Society. Maintenant, si vous rappelez de la définition, c'est beaucoup dire déjà de parler des acteurs au pluriel et d'inclure comme acteur, le gouvernement des États-Unis, Microsoft et la marque. Mais je pense que afin de penser cette question de la globalité de la gouvernance des médias de communication, il faut commencer à faire cela. Parce que, entre autres choses, on se rend compte qu'il y a cet aspect ou ce côté imprévisible par rapport au développement dans ce domaine. J'avais évoqué très rapidement en passant il y a déjà quelques minutes, l'exemple du cas de WikiLeaks, que je pense, à mon avis, soulève des questions extrêmement pertinentes sur le plan de l'évolution de l'éthique de la communication et de l'évolution de nouveaux normes dans le domaine de communication. Et je prévois qu'on va voir peut-être même rapidement des tentatives d'encadrement sur le plan politique pour contrôler d'une manière ou d'une autre ce genre de nouvelle expérience de communication. Pour continuer, et là ça achève, il est important de considérer encore une autre catégorie de nouveaux types d'acteurs que j'appelle ici les structures hybrides, mais qu'on appelle aussi souvent des structures multipartenaires, des multi-stakeholder organizations, qui est une manière de reconnaître la provenance diverse des membres ou des organismes qui en font partie. C'est-à-dire, si on prend, par exemple, le Forum sur la gouvernance d'Internet, Internet Governance Forum, qui est une nouvelle structure issue du sommet mondial sur la société de l'information. Sur le plan formel, N'importe qui peut adhérer au Forum sur la gouvernance d'Internet, même si ça dépend, c'est une structure qui dépend de l'ONU. Alors, les gouvernements, le secteur public, la société civile, bon, en font partie. Et il y a, bon, avec quel impact, ça, il y a une autre analyse qu'il faut faire de ça, mais et je pense qu'il faut reconnaître. Et là, encore une fois, je préconiserais qu'on va avoir de plus en plus de structures de ce type ou de processus hybrides ou regroupant des participants provenant des différents secteurs dans les années à venir. Finalement, ce que j'appelle les enjeux sans-abri, bon, j'emploie ce terme-là pour indiquer qu'il y a des enjeux qui sont à la fois bon, des nouveaux enjeux, mais aussi des nouvelles manières de concevoir les enjeux, mais qui n'ont pas de lieu de discussion ou de décision ou de prise politique. Alors, bon, le premier exemple que je donne, là, il y a toute une série de mesures de réglementation qu'on voit au niveau des États nationaux, où on dit que ça devient de plus en plus difficile de réglementer les médias sur le plan national parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent au niveau international. Et il y a un vacuum politique, il y a une absence de lieu sur le plan transnational où des questions qui autrefois étaient traitées sur le plan national peuvent être traitées internationalement. Et ça, c'est un enjeu important et, bon, il faut reconnaître pour l'instant le fait que ces enjeux-là flottent en quelque sorte par manque de lieu. La liberté d'expression et l'éthique de la communication dans le contexte numérique tel qu'on voit dans un exemple comme celui de que faire par rapport à WikiLeaks, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce qu'on fait plus que le débattre, qui intervient si on veut intervenir. On sait qu'il y a des États qui aimeraient intervenir, ils ne trouvent pas encore le moyen, sauf sans employer des moyens classiques. En même temps, à mon avis, dans tous les cas, les questions qui se posent sur le plan éthique et par rapport à des valeurs fondamentales telles que la liberté d'expression sont telles qu'il faut s'y adresser. Alors, où s'y adresser et de quelle manière et comment les acteurs peuvent-ils intervenir? Ils sont en train de le faire bon, directement. Hein, on voit les entreprises qui interviennent. On ne sait pas trop quel genre de pression qui les fait intervenir parce que les États n'ont pas les leviers, ainsi de suite. Alors, voilà le survol de quelques éléments empiriques qui sont à la base de cette tentative de réfléchir à la globalité de cet environnement de politique médiatique. Et je vais juste dire quelques mots et vous introduire à une site qui est la base d'un projet international de recherche dans lequel je suis impliqué avec des collègues sur ces questions-là. Si je peux arriver, vous pouvez y aller. Ah, je peux faire tout simplement en cliquant. Donc c'est globalmediapolicy.net et entre autres choses sur ce site vous trouverez le texte de Raboy et Padovani que j'ai cité tantôt ici dans la section Background Documents. c'est... Il faut dire que... Et je vais pas prendre beaucoup de temps, à moins que vous y insistez ou si vous le souhaitez dans la question par rapport à ça. Je voulais simplement vous introduire. Et ça c'est une manière, une tentative de créer une ressource, une plateforme de ressources et de données sur les éléments empiriques que j'ai exposés tantôt aussi. Donc, par exemple, et c'est encore assez nouveau pour que je ne maîtrise tout à fait le truc, mais vous voyez, c'est conçu comme une plateforme où on peut entrer des données, et éventuellement, l'ambition du projet, c'est de pouvoir faire les liens, les interconnexions avec cet outil et s'en servir comme outil d'analyse et aussi de ressourcement pour ceux qui essaient d'intervenir dans ce secteur-là. Alors peut-être ça suffira pour l'instant. J'ai d'autres éléments que je peux apporter, mais j'aimerais plutôt passer aux questions. Merci.
Je suis là. Merci pour la présentation. Je suis l'information. On peut effectivement développer, on peut inviter à développer. Et je lancerai le résultat en posant une question symétrique à celle que j'ai formulée à Philippe à la suite de son.
Moi, je n'entends pas la personne qui parle.
C'est moi. Tu m'entends pas? Ça va,
là? J'entends un peu mieux.
T'entends plus bien? Bon, je vais essayer de monter le ton un peu. C'est bon?
Ah, merci Gaëtan. Ouais.
Bon, je remerciais Marc et je disais que pour lancer le débat, je lui poserais une question symétrique à celle que j'ai formulée à la fin de ton exposé. C'est de ce que tu connais, Marc, et je sais que tu bon goût. De ses recherches sur Global Media, Global Media Policy. Quelle place penses-tu occupe et quelle importance occupe la perspective critique dans ces recherches au niveau mondial, mm-hmm. des travaux que tu connais. Comment tu caractériserais l'évolution de cette perspective critique? Est-ce que ça semble en expansion? Est-ce que journal, une initiative comme Global Media Journal des petits dans différents pays est un indice de l'expansion du développement de la perspective où on constate là encore certains reculs, une certaine marginalisation peut-être sur certains forums de niveau internationaux. Tu as aussi mentionné un autre indice de l'importance que peut prendre une approche critique complémentaire en parlant de la présence de plus en plus forte d'agences d'organismes de la société civile dans les forums mondiaux. Est-ce que c'est un indicateur de la place qu'on ferait à une approche autre que nous de l'approche critique?
Bon, moi, je pense que l'approche critique, elle vend dans les voiles, effectivement. L'approche critique, surtout sur des éléments spécifiques. Parce que aborder ça dans sa globalité, on est forcément restreint à le faire sur une certaine abstraction. Il faut prendre un certain recul des enjeux spécifiques parce que c'est trop, en fait. Donc il y a, au niveau de la théorisation, pas encore, à mon avis, suffisamment de chercheurs qui pensent cette question dans sa globalité là, mais quand on va chercher des études critiques sur tel ou tel aspect, moi je pense qu'il y a effectivement beaucoup. Juste un indice, quand on a lancé au sein de l'AIRI, moi avec d'autres, en En 98, on a lancé un groupe de travail au sein de l'AERI sur le Global Media Policy. C'était, bon, les questions étaient, qu'est-ce que vous entendez par ça? Bon, maintenant, 12 ans plus tard, il y a, seulement parmi le membership de l'AERI, il y a une centaine de membres qui adhèrent, qui cochent, qui veulent faire partie de ce groupe de travail, qui en fait comme le troisième ou le quatrième plus important regroupement au sein de l'AERI après économie politique et communication internationale et une autre qui est bon et c'est et donc comme objet ou comme approche c'est quelque chose qu'on ne pouvait même pas nommer il y a 15 ans de cette manière-là. C'est, des études sur ces questions-là auraient toujours été réalisées comme, bon, au sein de l'économie politique ou la communication internationale ou autre chose. Donc je pense que c'est important. Il y a des travaux qui sortent hein, ces temps-ci qui sont importants qui essaient de défricher ce champ-là dans une perspective critique. Je pense qu'un des gros défis c'est où c'est une question de boundaries les limites. C'est quoi les limites de ce champ. En fait, est-ce que tout est communication? Hein? Donc, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup. Et chaque fois que je fais un exposé comme celui-ci, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui se lève pour dire mais vous avez oublié telle chose. Ok, mais est-ce qu'on devrait l'inclure ou non? C'est parce que c'est pas. Alors, et où mettre cette. Où est la frontière? Hmm? Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pense que effectivement, il y a une approche critique par rapport à la Global Media Policy qui va devenir de plus en plus important.
Michel,
en quoi tu
les
définis critiques?
Pardon?
En quoi tu les définis critiques?
Ah, bon, je ne sais pas. Je réponds à une question.
Oui.
Il fallait que
en
je.
Dire, oui,
que
il y en a que des je... critiques, mais. Ouais. En quoi ils sont critiques, d'après toi? Parce qu'ils s'adressent à des enjeux particuliers, ils sont décisifs, est-ce que c'est parce qu'ils sont associés à des acteurs plus qu'à d'autres, etc.
Je pense que déjà, essayer de comprendre, d'écrire, de théoriser tout ce qui se passe dans l'univers des médias dans une perspective autre qu'instrumentale est critique. Et dans ce sens-là, il est vrai que, un gouvernement ou une entreprise ou une association de la société civile pourrait accéder et essayer de se servir de ces travaux-là pour faire avancer ses intérêts, mais ça ferait énormément plus de différence pour l'association de la société civile que pour un gouvernement ou une entreprise, ne serait-ce l'écart entre des ressources dont les différents types d'acteurs ont accès, ne serait-ce le bénéfice qu'on peut tirer des analyses que beaucoup d'acteurs ou bien n'ont pas d'intérêt à produire ou n'ont pas les moyens de produire. Donc, il y a vraiment un rôle pour la communauté scientifique et pour les chercheurs dans ce sens-là qui a sans trop se demander qu'est-ce que ça veut dire être critique c'est dans le sens que je viens d'énoncer il y a un biais vers un certain type d'utilisateur des résultats de ces recherches-là, plutôt que d'autres.
Tout au début dans ton émission du
pas plus fort parce que Philippe n'entend pas.
C'est votre homme?
Non, j'ai pas entendu du tout.
Approche fort du micro.
Bon, Evan-Marie, dans ta communication à l'UQAM, tout au début dans la définition de media policy, tu avais parlé des processus, des acteurs formels et informels dans le media policy. Et moi, je pense que de plus en plus, il y a une reconnaissance de l'importance des acteurs ou des processus informels dans le media policy making, dans des réglementations de communication. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus. C'est une question pour Marc et aussi pour la salle. À quel niveau pensez-vous que c'est possible à documenter et analyser des processus informels qui jouent un rôle important, mais vachement invisible dans le media policy making?
Oui. En fait, je pense qu'en ce qui concerne le secteur de la société civile, c'est relativement, je ne dirais pas facile, mais c'est faisable dans le sens où on peut espérer avoir accès aux acteurs, aux données. Bon, il y a, je connais des travaux, des gens ont employé des archives de courriels ou des trucs comme ça ou par entrevue pour réaliser, pour documenter un processus informel. Mais là où c'est vraiment difficile, c'est en ce qui concerne le secteur privé qui n'a aucun intérêt à se rendre, se faire accessible pour ce genre de recherche. Alors déjà, et souvent quand il y a des processus qui regroupent différents types d'acteurs, on trouve souvent une inégalité, un déséquilibre entre l'accès à l'information. Si je pense à mes propres recherches sur le sommet mondial sur la société de l'information, par exemple, on avait une immense documentation sur la manière dont la société civile s'est comportée et presque rien du tout sur le comportement du secteur privé. Et pas mal sur les gouvernements aussi, parce que, juste à côté de ta question, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les media policy studies traditionnellement ont beaucoup mis l'accent sur les processus formels, c'est parce que, au moins dans un pays comme le Canada, il y a beaucoup de documentation qui est on the public record, donc on peut y accéder, on peut, en tirer quelque chose. Ce n'est pas le cas dans tous les pays non plus, évidemment. Mais qu'est-ce que, quand toi, Evan, tu penses au processus informel, est-ce que, à quoi tu penses, par exemple?
Pas justement des processus, mais des relations de, par exemple, moi, comme activiste, j'ai fait partie de réunions informelles pour le CRTC, comme représentant de radio communautaire. J'ai intenté à enregistrer des réunions pour que les radios puissent écouter et entendre des réunions. Ils ont été interdits d'enregistrer cette réunion parce que cette réunion n'existait pas.
Okay.
Ça, c'est juste un exemple, mais je pense qu'il y a plusieurs autres.
Okay.
Donc, il y a toute une structure de relations entre des acteurs et des régulateurs qui n'a pas de tout un niveau de transparence.
Absolument. Non, ça fait partie de... ça fait partie du jeu, si tu veux. Parce que je suis content de t'avoir demandé un exemple, parce que pour moi, ce que tu évoques là, c'est pas autant un processus informel qu'une partie confidentiel d'un processus formel, si vous voulez. C'est ce qui se passe en arrière-plan d'un processus formel de réglementation par une agence de réglementation. Parce que je pense que dans une perspective de gouvernance, il y a des processus qui sont informels au plan de où ils n'engagent pas du tout avec les quelque chose comme une procédure de CRTC, mais qui a un impact sur les politiques et sur la gouvernance.
Pour moi, c'est dans une approche critique de l'éducation, on parle de démocratisation de politique. À quel niveau est-ce qu'on parle de démocratisation? Qu'est-ce que c'est de démocratisation si il n'y a pas une transparence dans chaque niveau de faisant de politique?
Oui. Non, mais ça devient à ce moment-là, ça devient un élément critique à apporter à, par exemple, disons, une analyse. Si quelqu'un faisait une analyse du fonctionnement du CRTC, c'est, évidemment, il faudrait en tenir compte de ça. Si on n'a pas accès à ce qui se passe entre les quatre murs du CRTC, mais si on déjà si on sait qu'il y a des choses qui se passent entre les quatre murs, ça devient un élément essentiel à tenir compte dans l'analyse qu'on fait du processus. Mais là, ce sont des stratégies de recherche, hein, parce que encore une fois, si je pense à mes propres expériences de chercheur, la meilleure manière de découvrir ce qui se passe au sein du secteur privé, par exemple, c'est de demander aux concurrents de commenter ce qu'ils font leurs concurrents. Hein? Tu sais, ils deviennent très bavards très rapidement. Hein? Donc il y a des stratégies de recherche, mais c'est pas. Je pense évidemment on ne va jamais tout savoir sur aucun processus, que ce soit formel et informel. Et ça devient c'est l'astuce du chercheur de pouvoir naviguer avec tout ça. Mais bien sûr, il y a certaines valeurs fondamentales qui ne sont pas propres au champ de policy comme tel, qu'on importe à ces recherches-là. La démocratie, la démocratisation, c'est fondamental, évidemment. Et c'est fondamental non seulement pour des recherches sur les policies, mais sur toutes sortes d'autres recherches en communication.
Je vais revenir sur le questionnement de Gaëtan au départ, parce que il y a deux mots qui m'ont frappé quand je pense au terme. Si je reviens à ta première ta définition d'introduction, il y a deux mots qui m'ont frappé, c'est les mots qui suivent: degré de pouvoir, donc le premier c'est pouvoir, et autonomie. Et en fait, je pense que les notions de pouvoir et d'autonomie sont en effet deux notions qui sont caractéristiques d'une pensée critique. Ça, c'était un petit commentaire qui, à mon avis, contribue à intégrer les recherches dont tu parles dans des perspectives critiques, justement, autour de ces notions de pouvoir et d'autonomie. Et alors, ma question, c'est qu'à partir de l'environnement que tu présentes, qui est extrêmement riche, mais articulé à plusieurs niveaux, puisqu'on ne parle pas, on parle de différents médias, différents moyens de communication, on parle de différentes échelles, du global au local, en pensant au continental, au national, au régional. Donc tout ça, évidemment, est imbriqué. La question, ce serait, ben alors si on revient à la question du pouvoir, par exemple, parce qu'en effet, la question du pouvoir est tout à fait centrale dans les recherches critiques, comment est-ce qu'on peut penser? Donc articuler en fait ta définition là, et puis articuler ce que tu as dit après, comment peut-on penser les relations entre tous ces acteurs, et notamment les relations de pouvoir entre l'ensemble de ces acteurs, dans un environnement aussi complexe tel que celui que tu,
oui.
Que tu présentes.
Oui, ça il faut faire à partir des cas empiriques, et on peut le faire par rapport au cas qu'on analyse. Moi, je pense que on pourrait toujours faire l'exercice, mais ce serait un peu illusoire de prétendre caractériser le pouvoir dans son ensemble par rapport à ça. Parce qu'il y a trop de contre-exemples qui vont venir s'introduire dans le décor. Si on prend le cas... Bon, qui a eu le pouvoir dans le cas... Si on prend le sommet mondial, le SMSI, et c'est quoi le pouvoir? Est-ce qu'il y a eu des gagnants? Est-ce que c'était les gouvernements? Il y a absolument aucun acteur qui a sorti de ce jeu-là disant « j'ai gagné ». Hein? Et on peut regarder, on peut dire que, on peut relativiser. Mais bien sûr, dans un processus comme ça, les gouvernements sont toujours la catégorie d'acteurs la plus importante. Il y a certains gouvernements qui ont eu plus que d'autres en ce qu'ils recherchaient, mais bon, tout le monde était un peu insatisfait de ça. Et ce que je veux dire par cela, c'est que il faut vraiment, on a besoin de faire des études de cas et de ne pas trop essayer d'employer les études de cas pour démontrer la validité d'une théorie qu'on peut avoir du pouvoir ou autre chose. Si on prend le cas de l'AMI, l'accord multilatéral des investissements, pourquoi ça n'a pas marché? Ben, c'est complexe, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que ça peut nous enseigner par rapport à une théorie de pouvoir? Bon, c'est quelque chose, bien sûr, mais...
Ben, dans le même ordre d'idée, je me demandais si il n'y a pas lieu de distinction entre le pouvoir propre aux affaires institutions, si c'est autonome, ce qui est une forme de pouvoir, et une forme de pouvoir plus globale. Par exemple, si je pense à Wikileaks, quand il y a eu le temps de couper les vivres, Visa et compagnie ont joyeusement embarqué. Alors, il était clair qu'il y avait des liens entre justement les États et justement les institutions financières, contrairement à leur credo justement de libre marché, oui. Relais salé, sont intervenus,
oui.
Sur une base qu'on peut soupçonner qui était à tout le moins politique. Maintenant, oui. Ici, l'idée qu'on voit la porte à un pouvoir plutôt plus global, qui sera au-delà des institutions, oui. Individuelles.
Mais. Continuons un peu dans le sens de l'exemple. Dans le cas de Wikileaks, le mal est fait. On essaie de faire du mal à Wikileaks. Demain matin, il va y avoir un autre Wikileaks à côté. Quand quelqu'un aura des secrets, là, il y a un modèle. Wikileaks, c'est un nouveau modèle de communication qui vient d'apparaître, et on se rend compte qu'il y a un problème. Hein? Si j'étais au Pentagone, je ne sais pas trop où, c'est le nouveau modèle de communication. C'est pas Wikileaks comme tel. On pourrait fermer Wikileaks demain matin et le jour où il y aurait un autre secret à divulguer sur la place publique, il y aura un site web pour le faire. À moins de créer un contexte d'encadrement politique qui hausse la barre au point où ça devient vraiment très coûteux pour quelqu'un d'essayer de faire ce que Wikileaks a fait. Ce qui n'est pas le cas actuellement sur le plan juridique, et c'est pour cela que c'est une question, il y a un enjeu politique extrêmement important là, qui est un enjeu politique mondial et global, et qui soulève des questions, comme j'ai dit tantôt, des questions non seulement politiques, mais aussi en ce qui concerne des valeurs chéries comme la liberté d'expression et des notions comme l'éthique de communication.
Au-delà de l'enjeu de Wikileaks, ouais. Il y a eu une forme de pouvoir qui était au-delà des institutions individuelles, puisqu'il y a eu, toute évidence, un rapport entre l'étatique, le politique et le marché. Je veux dire, Visa, depuis quand ils empêchent les gens de faire des paiements? c'est la raison d'être. Et ce part de pouvoir-là, on ne la retrouve pas nécessairement dans les institutions individuelles, les raisons d'être.
Exactement.
Comment est-ce qu'on peut les conceptualiser?
On peut les conceptualiser, ça c'est un processus informel de gouvernance des médias. C'est un exemple dramatique de cela. Il n'y a aucune règle gouvernementale, il n'y a aucun gouvernement qui a dit formellement à Visa, faites ça s'il vous plaît. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est dit dans les lieux non transparents, mais il n'y a pas. Mais ça, c'est un cas d'une entreprise qui intervient dans une situation pour telle raison et qui avec un impact sur la prise de décision concernant ce qui se passe dans le milieu de communication. Et il y a d'autres, il y a des exemples comme ça dans l'histoire que je pourrais donner. C'est une espèce de autoréglementation, mais pas dans le sens d'autoréglementation des entreprises sous l'égide d'un organisme gouvernemental. Hein? C'est un acteur, dans l'occurrence Visa, qui se sert de son pouvoir pour intervenir sur la capacité de communiquer, si vous voulez, sans aucun cadre juridique ou règlement ou loi ou autre chose.
Avant de passer la parole à François, je vais m'assurer que Philippe, si tu veux intervenir après François.
Ah oui, si je peux poser une question après, j'aimerais beaucoup. D'accord. Merci.
François. Moi, ça va être plutôt un commentaire. J'ai interprété ce que tu as présenté plus comme quelque chose comme un mapping, comme un descriptif qui illustre bien le déplacement du lieu de la policy. La policy jusqu'au 21e siècle, on la pensait toujours quelque chose qui était fondamentalement entre les mains de l'État et de l'État national. Et là, on voit très bien graphiquement que ça s'est déplacé, que l'État a été subsumé par quelque chose qui est un happening, où il y a plein de forces. Et là, pour ça, je trouve que ta réponse sur le cas est une bonne illustration. Chaque enjeu concret devient un happening. Devient un happening dont la face formelle, explicite, qu'on peut attraper, les documents, les lieux, les organismes, cache toute la dimension informelle. Où est le pouvoir? Et comment l'enjeu va-t-il finalement se résoudre, s'il se résout, je pense que c'est comme pré-critique. Moi, j'ai trouvé ce que tu faisais comme étant pré-critique. Parce que c'est après, la question qui se pose, c'est dans cet univers de négociation tout azimut, à tous les niveaux, chaque enjeu devient quelque chose qui va... On ne sait pas trop comment ça va sortir. Hein? On a vu les actions politiques qu'on aurait cru qui... ou encore du côté des intervenants des entreprises privées, on croirait qu'ils vont passer à travers, et puis paf, il s'est passé quelque chose. Il y a une imprévisibilité qui peut-être, et la question critique, c'est est-ce que cette imprévisibilité-là, elle est à l'avantage, et là on peut poser des questions de valeur, à l'avantage de la transparence, à l'avantage de tous les acteurs ou de seulement certains acteurs plus que d'autres. Et je pense que c'est pour ça, pour moi, c'est comme pré-critique.
Je pense que l'imprévisibilité est à la faveur des acteurs les moins puissants. Je pense que c'est pour ça. Moi, quand on me pose la question, j'encourage toujours les gens à essayer, à intervenir. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se produire. On ne sait pas qui sera l'allié qui va se pointer, qui est un allié puissant, qui va se pointer parce que ça peut faire l'affaire des deux. Tu as dit aussi que ce qui est nouveau dans le 21e siècle, c'est ce déplacement de l'État. Et je pense qu'on pensait autrefois que tout ça, ça avait lieu à l'intérieur de l'État. Je pense qu'à tort, on pensait de cette manière-là. Parce que je pense que, et là, quand on fait des études de cas historiques, on se rend compte à quel point il y a toujours eu cet ensemble d'acteurs qui étaient présents, même si, bon, on ne soupçonnait pas, ou on ne faisait pas attention, ou c'était pas documenté. Si on remonte au débat de l'origine de la radio, on voit bien d'acteurs autres que les États. Et les États sont arrivés en retard pour intervenir. Ils ont décidé qu'ils devaient intervenir. Ils ont aussi décidé qu'il fallait qu'il y ait un encadrement international. Hein? Sur les fréquences radiophoniques, c'était il y a assez longtemps. Ça ne date pas du 21e siècle. Mais si tu me permets,
c'est la représentation idéologique qui nous faisait considérer l'État comme étant le légitime détenteur de tout ça.
Oui, une des choses. Il y a deux choses.
Par ailleurs, des interventions.
Il y a plusieurs choses qui sont différentes aujourd'hui. Je pense que la place de la société civile organisée sur le plan international est plus importante que c'était il y a 100 ans. Je pense que la puissance transnationale ou le nombre d'entreprises transnationales puissantes. Je dirais pas que la puissance, parce qu'à l'époque de la radio, la puissance, la compagnie Marconi, c'était un monopole à son époque plus puissant qu'aucun monopole qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a 20 monopoles ou 40 monopoles comme ça dans différents secteurs. Et c'est ça qui est différent. Et aussi, c'est la rapidité de l'évolution des enjeux. Et de l'apparition, la rapidité avec laquelle de nouveaux enjeux apparaissent. On n'arrive même pas à trouver comment on va manipuler ou on va résoudre l'enjeu de ce matin. Déjà, ce soir, il y a un nouvel enjeu. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il y a une espèce d'explosion dans ce sens-là qui fait en sorte que ça devient extrêmement imposant même d'essayer de comprendre ce qui se passe dans tous ces raccoins, même si on sait intuitivement que c'est important. Moi, je connais presque à peu près rien sur la surveillance de la vie privée, mais je sais que c'est important. Il faudrait que je m'approprie ça, mais qu'est-ce que tu veux? Il n'y a que 24 heures dans le jour. On n'a pas encore résolu ce problème-là.
Philippe?
Oui, merci. J'aurais une question sur le mode de fonctionnement de ce que vous avez appelé les groupements hybrides. Et en particulier, je ne sais pas si vous avez pu étudier des cas de groupements hybrides qui ont travaillé sur des évolutions réglementaires en matière d'audiovisuel, de télécom ou de web. Et est-ce que le fait de mettre ensemble des structures différentes, des acteurs industriels, des États, des représentants de la société civile. Est-ce que, en général, vous avez remarqué que ça favorise l'apparition de dissensus, des intérêts divergents qui apparaissent, ou est-ce qu'au contraire, on voit que les conflits sont encadrés autour, finalement, de représentations communes du développement des technologies, comme si le développement de ces technologies était naturalisé par le marché, par un certain nombre de phénomènes. Bon, en gros, est-ce que le consensus n'est pas ramené à quelques points mineurs?
Ben, en fait, là aussi, il est un peu difficile à généraliser ou à avoir une théorie générale parce que les cas concrets qu'on a et qui ne sont pas encore très nombreux sont très très différents. Et souvent, bon, ça dépend de qui a pris l'initiative, qui est le secteur qui a le plus d'intérêt de monter ça. Mais je pense que si on peut essayer de prendre un peu de recul de ça, je pense que dès qu'on introduit des acteurs non gouvernementaux dans un processus gouvernementale, ça, ça répartit le pouvoir formel, au moins. Si on réussit à introduire les représentants non gouvernementaux provenant d'ailleurs que le secteur d'affaires dans un processus qu'autrefois ne concernait que les États et le secteur privé, ça ne peut qu'avoir une influence quelconque. Hein? Alors là, encore une fois, je pense que de manière globale, c'est le secteur de la société civile qui est gagnant de cette ouverture. Parce que dans l'ancien modèle, il n'y avait de la transparence qu'en ce qui concernait les résultats des délibérations gouvernementales. On savait, bon, il y avait une loi, on savait que ça comptait pour quelque chose, on ne savait pas d'où ça venait, mais on avait une loi. Il fallait qu'on se soumette à cette loi-là. Maintenant, en décortiquant le processus, on apprenait souvent que, derrière cette loi, il y a eu ces collaborations entre tel ou tel acteur influent que le résultat était la production de cette loi. Bon, alors, c'était pas un processus strictement gouvernemental, mais c'était pas un processus multipartenaire dans le sens où c'était pas ouvert. Il y avait un manque de transparence qui était fondamentale au processus et qu'il fallait comprendre et saisir. Mais alors, ceci étant dit, il est un peu trop tôt, par exemple, de pouvoir évaluer l'impact d'un organisme comme le Forum sur la gouvernance d'Internet, par exemple. Ce qu'on dit par rapport au Forum sur la gouvernance d'Internet, un des problèmes, c'est que ce n'est pas décisionnel. Bien sûr, ce n'est pas décisionnel parce que les gouvernements ne sont pas prêts à... Ils sont prêts à venir s'asseoir dans une pièce comme celui-ci et causer avec... avec n'importe qui, finalement. Mais tandis que ça ne reste qu'au niveau de la jazette, ce n'est pas... au moins, ils ne considèrent pas que ça empiète sur leur pouvoir de décision. Donc, bon, voilà. Donc, c'est un peu comme tout ça. C'est un peu comme l'introduction de la représentation parlementaire. Est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose? Comme disait Joe and Lai, c'est trop tôt pour savoir. Okay.
Merci. Une dernière intervention avant que je demande à Marc.
Je suis quand même un peu surpris de vous entendre parler de la société civile, de vous entendre dire que la société civile a une place encore aussi, une place de plus en plus importante dans la mesure où je croyais avoir lu dans ce que vous avez écrit que, par exemple, au SNSI, la société civile a eu beaucoup de difficultés à se faire entendre. Que par exemple aussi, juste on voit l'ICANN, il y a encore beaucoup de lieux privés, fermés, à laquelle la société civile n'a pas accès. Donc votre optimisme me paraît un petit peu ambigu. Là. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être juste expliquer ou dire où est-ce que vous voyez que la société civile peut prendre ancrage et élaborer ses valeurs communes.
Je pense que la société civile doit se développer et saisir les occasions qui se présentent pour intervenir, pour agir. Ça, pour moi, c'est fondamental. Je ne peux qu'être optimiste à ce sens-là. C'est juste...
C'est Facebook.
Hein? Comment?
Il faut qu'elle soit sur Facebook.
Non,
partage pas ton optimisme.
Pardon?
Partage pas ton optimisme. Je trouve que tu le lis à l'envers.
Ah, OK. Élabore. Facebook, moi je ne reparle pas de
Facebook. Dans les instances de pouvoir à discuter avec supposément des représentants de la société civile, mais en fait, en autant qu'on les rentre dans un cadre de régulation et d'élargissement des pouvoirs en place. C'est ça qui est en train de se passer.
Oui, sauf que il y a des réseaux il y a très peu d'intervenants de la société civile qui ne font que ça. Hein? Si on prend quelques exemples de ce que j'ai donné, comme la marque ou l'APC, le fait que ces institutions-là vont s'asseoir à la table de discussion avec les gouvernements et avec les entreprises, ce n'est pas leur seule activité. Ils se développent, ils revendiquent une place dans une perspective ou un esprit de démocratisation, dans une perspective des valeurs fondamentales qui sont véhiculées par la société. Et si le résultat, c'est de démasquer les failles du processus, c'est déjà important. Parce que ce n'est pas la seule chose qui fait. Le problème est là pour répondre à monsieur, dans mes écrits les plus récents sur le SMSI, je ne sais pas quel en tout cas, mais une chose que je déplorais, c'était dans le cas du SMSI, c'était une espèce de professionnalisation et institutionnalisation des intervenants de la société civile. C'est quelque chose qu'on avait remarqué à partir du début jusqu'à la fin. Au début du SMSC, il y avait toute une sorte de groupe hétéroclite qui se sont pointés là pour dire bon, on veut être là. Et à la fin, ce qui était quand même 5 ans plus tard, il y avait bon quelques ONG avec des très très professionnalisés qui étaient tout à fait présents. Mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans l'action. Je ne dirais pas que s'il y avait une SMSC 2 demain matin, l'expérience devrait se répéter. Mais par le fait d'avoir participé à ça, et quand ils retournent chez eux, hein, ça, ne serait-ce qu'au niveau de l'apprentissage qu'ils ont eu par cette expérience-là, ce sont des acteurs plus sophistiqués, plus empowered, plus habilités à intervenir dans toutes sortes de processus. C'est pas moi, c'est pas moi qui mentionnais Facebook, c'est toi. C'est pas la même chose. Moi, je ne fais pas de.
Pardon? Est-ce que tu fais de la judiciarisation des pratiques qui sont divergentes que celles prévues dans le cadre réglementaire actuel ou encore dans le cadre de l'échange marchand?
J'ai pas bien entendu.
Oui. Comment ça se fait que des gens qui proposent des échanges non valués sur le mode monétaire, on les transforme en pirates et on les poursuit? Comment ça se fait que quelqu'un qui dévoile supposément des secrets, on va le traîner en cours et on va le judiciariser aussi?
Mais il faut se battre contre ça. Il faut s'organiser pour lutter contre ça. Mais est-ce que tu suggères qu'on le constate et qu'on ne fasse rien?
Non, qu'on proteste.
Mais de grâce. Si on proteste.
En disant que la société civile progresse, au contraire, on est en train de la shrinker.
Si vous permettez, je vais demander à mademoiselle de faire la dernière intervention.
D'accord.
Parce que, comme toute question importante, on ne conclura pas en 3 heures. C'est prévu d'ailleurs, hein? Il y a d'autres séances pour le séminaire pour approfondir les questions qui ne manqueront pas de revenir.
Sur la question qu'on est en train de traiter, je me demande si la société civile, à court terme, sa façon de profiter de la situation, d'exercer une pression, ce ne serait pas par, dans la mesure où cette population-là est consommatrice. La société civile a un pouvoir de consommation, c'est à ce moment-là qu'un pouvoir d'influence pourrait se manifester le plus, parce que bon, si on regarde juste à l'échelle étatique, ce qui existe en matière d'encadrement du lobbyisme, la loi est faible justement à cause de la concurrence mondiale. Il ne faut pas non plus que l'État intervienne trop parce qu'il y a des avantages des entreprises en place. Donc, par la voie de la consommation, est-ce que ce serait, bon, sur le plan local puis par extension mondiale, la seule façon d'intervenir ou de faire des changements au niveau des organisations qui vont.
Oui. D'abord, je pense qu'un des problèmes quand on parle de la société civile, c'est que la société civile comprend toutes sortes de choses. C'est pas, et là, bon, aujourd'hui, on parle de certains types d'associations progressistes qui font partie de la société civile. Il y a des associations de droite, d'extrême droite, qui sont assez habiles et à intervenir pour promouvoir leurs intérêts aussi. Donc, il faut mettre un bémol à ce niveau-là aussi. Donc, pour répondre au genre de problème que vous soulevez, je pense qu'il faut regarder du côté des organismes de la société civile qui prennent certaines pratiques alternatives ou certaines approches critiques, que ce soit au niveau de l'environnement ou des médias ou autrement. Et c'est tout en sachant qu'il s'agit d'une partie de la société civile. Et quand les enjeux deviennent vraiment, vraiment importants, il y aura des associations de la société civile qui vont se soulever et avec lesquelles on ne serait pas du tout d'accord. Donc tout ça, c'est un peu... J'ai évoqué tantôt, juste en passant, le parlementarisme. C'est comme dire que la démocratie libérale ne vaut rien parce que regarde ce qu'on a dans le Parlement. Bon, ça fait partie de l'évolution de la politique. Politique dans le sens de politics, pas policy.
Merci, je crois que nous allons mettre un terme à cette séance. Je finis en nous rappelant, je pense, l'intérêt de la dialectique comme méthode de pensée critique. Toute synthèse appelle la production d'une nouvelle antithèse, c'est pas continu, quoi. Ceci étant dit, peut-être, Éric, que tu peux nous rappeler, après que j'ai remercié nos deux intervenants de ce moment, une intéressante présentation, juste le débat, l'échange dynamique. Est-ce qu'Éric, tu veux nous rappeler la prochaine séance?
Alors, c'est le 11 février, ce sera à nouveau à 13h30, au premier étage, et ce sera avec Lynn Grenier de l'Université de Montréal et François Yel de l'Université de Sherbrooke.
Voilà. Merci à tous.
Et on va parler de dialectique, je pense, la fois d'après avec Gaël. Voilà. Philippe, un avis ?
Merci, au revoir à tous.
Au revoir, Philippe.
Au revoir, merci. Bonne année.